Alors, simplement, j'avais à cœur aujourd'hui de partager quelque chose qui, moi, m'a beaucoup touchée ces derniers mois. Et ça fait plusieurs fois qu'on en parle au niveau du conseil. Du coup, je vais vous le partager aujourd'hui. Donc, simplement, je voudrais parler d'hier. Donc, il y a eu la marche pour Jésus à Strasbourg. Et je sais que vous avez été nombreux à y être. Et moi, pendant ce temps, j'étais à l'Assemblée générale des AFP à Colmar. Et c'est une autre marche pour Jésus qui se fait jour après jour au niveau des autorités, au niveau de nos communes, au niveau de nos villes. Et simplement, je voulais vous partager quelques encouragements. Donc, il y était présent donc, une représentante d'un député pour le Conseil général. Il y avait un représentant de la CAF et une représentante de la municipalité de Colmar. Et les trois ont vraiment souligné et remercié vraiment le travail qui était fait. On relevait que les temps dans lesquels nous étions, les finances étaient de plus en plus réduites. Pour vous donner un exemple, ils disaient que le Conseil général avait eu 3 millions d'excédents cette année pour leur projet, mais qu'à cause de tout ce qui avait été ponctionné par le RSA avec les nouvelles lois, ils n'avaient déjà plus rien au jour d'aujourd'hui. Et que ce qui était prévu d'être ponctionné l'année prochaine, je crois ne pas me tromper, que c'était déjà au moins 7 millions. Donc ils disaient, on ne sait pas. On ne sait pas encore comment on va faire. Il va nous falloir beaucoup de créativité. Et ils ont dit, on veut vraiment marcher main dans la main avec vous, AFP. Donc je rappelle, AFP, c'est les associations familiales protestantes. Et dit, on a besoin de marcher avec vous, main dans la main, pour être créatifs et pour continuer à pouvoir répondre aux besoins. Et ils ont remercié pour le travail qui a été fait au niveau des familles. Les AFP sont en train de se multiplier sur la région. Du coup, ils ont ouvert un bureau sur Mulhouse, ce qui est aussi nouveau. Donc maintenant, il y a un bureau sur Colmar, il y a un bureau sur Mulhouse. Il y a une fédération donc des AFP, donc il y a Caleb avec Évangélique sans frontières et ça c'est l'APO, Barnabas et encore Famille Je t'aime. Enfin, pour dire, ne méprisons pas ces associations. Là, j'ai vu qu'il y a plusieurs choses, je voulais l'emmener, j'ai oublié mon dossier pour vous montrer des flyers. Il y a plusieurs choses pour lesquelles on prie, qui existent déjà, où des associations se sont créées, comme par exemple pour le microcrédit. Et donc, vraiment, c'est très, très encourageant. Et il montrait qu'au niveau des AFP, on est reconnu au niveau des municipalités. Donc, en tant qu'AFP, alors là, il va falloir qu'on se renseigne comment, mais on peut être, par exemple, dans un conseil municipal pour amener vraiment aussi nos idées et nos dons pour pouvoir servir la ville, pour pouvoir servir les familles. Et donc, le représentant, je ne sais plus lequel, a rappelé qu'en fait, les AFP, ça a démarré juste après la guerre. Donc, c'est Charles de Gaulle qui avait lancé ça en 1945 et elles ont pris vie en 1946. Donc, elles fêtent aussi leurs 70 ans. Et les 70 ans vont être en fait fêtés à Colmar. Donc, il y a chaque année un rassemblement des AFP au niveau national. Donc là, ça s'appelle l'UNAF, alors qu'hier, j'étais à l'UDAF, donc Union des départementales des associations familiales protestantes. Et ça aura lieu donc le 26 juin. Et voilà. Donc je sais déjà que moi, je ne pourrais pas y être parce que j'ai autre chose en même temps. Mais bon, pour dire, réveillons-nous. Nous avons cette chance. Et autre chose, les AFP ont été rapprochés par les associations familiales d'Allemagne. Donc il y a un partenariat qui a commencé avec l'Allemagne. Et ils disaient, mais la grande différence, c'est qu'eux, ils sont seulement en statut d'association. Parce que c'est quoi l'objectif de l'UDAF et de l'UNAF? C'est de nous représenter au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que nous avons une voix et que tout ce que l'on va rassembler comme voix, notre avis est entendu au niveau de toute la nation. Donc c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et je me rends compte qu'il y a maintenant, au moment de la contre-réforme, enfin, au niveau de l'histoire, je ne suis pas trop bonne, je ne vais pas dire de bêtises, mais on avait mis donc la foi dans le privé à cause des guerres de religion. Et donc, nous, évangéliques, on a hérité un peu de ce côté où on a voulu mettre la foi dans le privé, enfin un peu beaucoup, mais ça n'est plus le temps pour cela. C'est non seulement le temps des marches pour Jésus organisées dans des villes une fois dans l'année, mais c'est de marcher pour Jésus tous les jours dans notre travail, dans notre commune, dans nos activités, que ce soit dans les crèches. Et là, vraiment, il y a ce souci pour la petite enfance. Il y a vraiment des gros besoins. Et pour arriver à ça, c'est tout à fait l'objet de mon message aujourd'hui. C'est donc le jeûne. Et voir pourquoi, comment est-ce qu'on peut enfanter ces choses que Dieu... Pourquoi est-ce qu'il y a des freins? Pourquoi est-ce que nos travaux n'avancent pas toujours comme on voudrait? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Et quelles sont les balises que Dieu nous donne? Et simplement, je voudrais juste rebondir quand même sur ce qu'on a entendu ces derniers temps. Donc, je voulais reparler d'Elvire et de Pierre Daniel, qui les deux ont parlé de cette proximité, de cette présence de Dieu qui nous amène à entendre le cœur de Dieu, vous vous souvenez, et entendre ce qui se passe au niveau de la Trinité. Qu'est-ce qui se dit autour du trône ? On ne veut pas simplement venir à Dieu pour nos prières et nos besoins, mais on veut avoir ce temps dans l'intimité. Et on le fait déjà individuellement et un tout petit peu collectivement au niveau de la tente de la rencontre, donc dans la maison de prière. Mais c'est de venir aussi ensemble, qu'est-ce qui se passe autour du trône? Parce que quand nous faisons ce qui se passe autour du trône et que nous disons ce qui se passe autour du trône, alors il y a les anges qui bougent et il y a des armées d'anges qui attendent que l'on parle les décrets de Dieu. Et j'ai beaucoup apprécié ce matin les prières de Fabrice. Il y a par la foi, et on a chanté des chants qui sont au futur, et j'aime pas quand c'est au futur, parce que maintenant nous pouvons le dire au présent. Il y a des choses de la parole que l'on parle, mais c'était avant que Jésus ne soit venu en chair et qu'il soit ressuscité, monté au ciel. Mais maintenant que c'est fait, nous avons un héritage, et c'est pour tout de suite, c'est pas pour demain. Dire qui nous sommes, être dans notre identité, ce n'est plus seulement une foi pour demain, c'est aujourd'hui que nous sommes déjà fils et filles, et que Jésus nous a assis avec lui, où ça? Les jeunes? On est assis où? Amen. Ils sont pas tous là-bas, les jeunes. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir déclarer qui nous sommes, savoir qui nous sommes. Parce que quand nous commençons à le déclarer, alors vous savez que ce que l'on dit dans notre bouche, ça va où? Ce qu'on proclame par notre bouche, ça va où? Eh oui, la bouche est la porte de notre cœur. C'est pour ça que nos pères dans la foi mémorisaient la parole. Et c'est comme ça qu'ils ont déraciné toute une société d'une culture de mort et qu'elle a été réenracinée dans une culture de vie. Parce que quand la parole est enracinée dans nos cœurs, eh bien alors elle peut ressortir. Et c'est ce que je disais aux petits primaires, ce que vous dites dans votre bouche, je dis prenez des petits cailloux, ben, si vous, hein, j'ai pas souvent parlé aux petits, mais et je dis, mais qu'est-ce que vous faites rentrer dans votre cœur? Ce que l'on dit par notre bouche, c'est ce qui rentre dans notre cœur. Alors si c'est des paroles de défaite, si c'est les pensées qui viennent dans notre tête et qui nous assaillent en permanence que l'on prononce, c'est ça qui va déstabiliser notre cœur. Alors que si nous prononçons la parole, si nous prononçons qui nous sommes, ce que Christ a fait pour nous, c'est ça que nous allons porter. Et c'est le temps maintenant. On vit dans des temps extraordinaires. Nous, on est venus à la fois 30 ans avant vous. Et à l'époque, c'était « il y aura un temps où… » Et ce temps, ça y est, il est là. Il y a ce temps pour régner. C'est notre temps. Et vous n'êtes pas tout seul, on veut vraiment y aller ensemble. Donc je voulais rappeler simplement ce qu'Elvire, et alors c'était beau, Pierre Daniel, simplement à redonner trois clés pour le culte personnel. Il disait quoi, le culte personnel? C'est pas passer des heures, le culte personnel, c'est un positionnement. C'est dire oui, se souvenir qui nous sommes, dire je me soumets à toi, Saint-Esprit, et c'est écouter ce que le Seigneur a et prendre notre feuille de route. C'est pas le temps pour dire, c'est pas on doit faire plein de choses pour être en communion avec Dieu, non. La communion, elle est là parce que Jésus a fait tout le chemin. Donc ça, c'est vraiment, je voulais rappeler ça. Et ensuite, le message de Luc qui parlait de notre Père, vous vous souvenez, où il disait notre Père. Et il disait, mais pourquoi encore une prière en plus? Et c'est simplement parce que c'est une nouvelle révélation. Et cette nouvelle révélation, à l'époque, il ne savait pas que Dieu était notre Père. Et que c'était tous ensemble, on est notre Père, et il dit que ton royaume vienne, c'est-à-dire que le royaume maintenant peut être au milieu de nous, parce qu'il y a des fils et des filles, mais il faut le savoir que nous sommes fils et filles. Donc simplement, je voudrais aller un tout petit peu plus loin, et pour ça je vais laisser parler quelqu'un qui a parlé très bien sur le sujet et qui moi m'a profondément impacté, c'est Derek Prince, c'est au sujet du jeûne et de la prière. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai commencé ma vie chrétienne avec beaucoup de jeûne, beaucoup de prière. Et puis j'ai fait un burn-out, comme ça arrive à plusieurs. Et j'ai accepté toutes sortes de pensées complètement aberrantes concernant le jeûne. Et je me suis fait voler. Et quand j'ai relu ces choses, je me suis dit, waouh, effectivement, c'est un terrain à reprendre. Alors... Je vais simplement le reprendre avec vous. Il faut savoir que, on l'a dit beaucoup, c'est que c'est ni par puissance ni par force. C'est pas, Alana le disait tout à l'heure, c'est pas par notre force à nous qu'on va faire descendre le ciel. Le ciel nous a été ouvert par Par qui ? Par Jésus. Et comment nous a-t-il ouvert le ciel ? Oui, mais avant de mourir, il a fait quoi ? Il a aimé, il a marché sur la terre, il a fait quoi pendant qu'il marchait sur la terre ? Jusqu'au moment de son baptême. Il a accompli toute justice, il a obéi à toute la loi. Jésus est le seul homme en chair qui a marché sur la terre et qui a obéi à toute la loi. C'est pour ça qu'on voit qu'il a été amené au temple le sixième jour. Et les parents ont fait tous les rituels. Et quand il avait disparu à Jérusalem et ses parents disaient « Mais où est-ce que tu étais ?» Il était en train de parler à la synagogue. Pourquoi ? Parce que les jeunes hommes, et là il avait déjà fait sa bar mitzvah pour la Pâque, devaient être à la synagogue en train de lire. Il a obéi à toute la loi. Et quand il est rentré dans le Jourdain, petit rappel, qu'est-ce qu'il a dit Jean-Baptiste ? Il voulait le baptiser, Jean-Baptiste. Il a dit, non, je ne suis pas digne. Et puis Jésus a dit, mais si, mais il le faut pour accomplir toute justice. Et toute justice, c'est-à-dire pour que la justice, c'est-à-dire l'obéissance parfaite, soit complètement accomplie. Et qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il est sorti du Jourdain ? Les cieux se sont déchirés et le Père a pu enfin revenir en communion, et il est dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y avait quelqu'un qui avait accompli toute la loi. Alors quand on te dit, oui mais t'as pas fait assez ci, t'as pas fait assez ça, et patati et patala, Christ a obéi toute la loi. Et juste, ça a plusieurs sens, ça veut dire obéissance parfaite. Ça veut dire obéissance parfaite. Et voilà, et l'autre maintenant j'ai oublié, justice. En tout cas, Christ a obéi parfaitement pour nous, et par cette obéissance, nous en sommes héritiers. Et donc, on est encore nous beaucoup pris dans toutes sortes de faux enseignements qu'on a par notre culture, par la culpabilité. Et c'est pour ça que je rappelais ce matin, j'avais de nouveau ce verset, il n'y a plus de condamnation pour qui ? Pour ceux qui ont cru en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient. Alors j'avais relevé plusieurs versets sur la foi, mais le juste vivra par la foi. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont cru en Jésus. Pourquoi il n'y a plus de condamnation ? Quand on vient nous dire « t'as pas fait assez ci, mais t'as vu, t'as pas fait assez ça » et patati, on répond « Hé ! » Jésus a obéi 100% et je suis au bénéfice de son obéissance parfaite. Il nous a libérés de la puissance de la loi et du péché. Non pas que ça n'a plus d'importance, mais c'est qu'il a payé à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc ça ne veut pas dire que le péché n'est pas grave, mais il a payé à notre place. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on s'aperçoit, qu'on n'est pas fier de ce qu'on a fait, on demande pardon. Moi, l'autre jour, pendant le comité, à un moment donné, j'ai eu une parole négative. Je ne sais plus ce que j'avais dit comme bêtise. J'ai dit, mais ça n'arrivera jamais. Tout de suite après, je me suis aperçue que je venais de dire une grosse bêtise. J'ai dit au comité, excusez-moi, Seigneur, pardon. J'efface. Hein. Et j'ai dit, non, Seigneur, toi, tu es capable de... Ça va jusque-là. Attention aux paroles que nous prononçons. Attention aux attitudes de nos cœurs. Nous sommes dans ces temps où Dieu veut révéler sa gloire. Et comme Fabrice le disait, sa gloire, c'est sa bonté, c'est sa miséricorde. Attention au jugement. À chaque fois qu'on juge, on se juge nous-mêmes. Ça veut dire qu'on est dans la condamnation quand on juge. Parce que si on juge l'autre, ça veut dire qu'on s'est déjà jugé nous-mêmes. Et c'est le fruit qu'on n'a pas compris, qu'on a été libéré, qu'on a été pardonné, qu'on a été guéri. Et j'étais tellement profondément touchée par Elvire au milieu de nous, qui avait cette manifestation de cette absence de jugement qui était phénoménale. Et ça, on le trouve dans la présence de Dieu. On le trouve quand on vient, quand on est dans cette intimité, où Dieu se révèle de qui il est, qu'il est ce papa pour nous. Où on comprend qu'on n'a plus rien à prouver, mais qu'il l'a fait à notre place. Où on comprend que ce n'est pas à nous de crapahuter pour obtenir quelque chose, mais qu'il a crapahuté pour nous, qu'il est allé jusqu'à la mort, l'obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et donc nous, par amour, on va courir pour lui. On ne va pas rester sur notre chaise longue, mais on a envie de courir pour lui. Mais par amour, pas par culpabilité, pas par jugement, pas par sentiment de condamnation, parce que là, on va se fatiguer. Et simplement, je voulais en venir là pour dire pourquoi il y a si peu de gens dans nos réunions de prière. Pourquoi on a tant de mal à se retrouver à prier ? Parce que je pense qu'on croule encore pas mal sous la condamnation et qu'on n'a pas réalisé l'âme que nous avons. Et simplement, je voulais aussi dire, ce n'est plus seulement le temps pour être tout seul. Dieu veut nous rassembler. Donc sans aller plus loin, je voudrais juste parler de la puissance du jeûne collectif. Et le jeûne collectif, ce n'est pas une belle idée, c'est vraiment un modèle que Dieu nous donne dans sa parole, et Jésus en parle aussi. Je crois que la plus grande forme de la puissance spirituelle à la disposition du peuple de Dieu est d'unir la prière avec le jeûne. Pas seulement un jeûne individuel, ce qui est bon, mais c'est l'union de la prière avec le jeûne collectif qui est selon moi le sommet de la puissance. Donc c'est Derek Prince qui parle. La base biblique du jeûne, le mot jeûne peut avoir diverses définitions, mais sur une base scripturaire, je dirais que le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture volontairement à des fins spirituelles. Normalement, quand on jeûne, on ne mange pas ou on ne boit pas. La Bible présente des occasions où les personnes ont jeûné sans nourriture ni eau. Moïse l'a fait 2 fois et je pense qu'Élie l'a fait 1 fois pour 40 jours. Je ne recommande à personne d'entreprendre un jeûne de 40 jours sans nourriture ni eau, à moins qu'il ne soit au même niveau de relation de Dieu, avec Dieu et dans l'état surnaturel dans lequel Moïse et Élie étaient à ce moment-là. Il est vrai que dans le livre d'Esther, au chapitre 4, Esther et ses servantes ont jeûné 3 fois, 3 jours et 3 nuits, sans nourriture et eau, soit 72 heures. Et personnellement, je l'ai fait 2 fois, ce devrait être la limite de jeûner sans liquide, à moins que, comme je l'ai dit, vous soyez dans un état surnaturel. Aller au-delà de 3 jours sans liquide est très dangereux physiquement. Par contre, ça n'est pas dangereux de jeûner sans nourriture pendant plus de 3 jours, si on le fait avec des préparations et pris les précautions appropriées. Je parle par expérience personnelle. Le nombre de jours que j'ai jeûné n'est pas pertinent, mais il est possible sans aucun doute de se passer de nourriture pendant 40 jours ou 21 jours, etc., si l'on est dans l'état physique et spirituel approprié. Je ne dis pas que l'efficacité de notre jeûne dépend de la longueur de notre jeûne. Elle n'en dépend pas, mais elle dépend de notre sensibilité à la volonté de Dieu et à la conduite du Saint-Esprit. Et je dirais que comme pour toute chose, c'est la disposition de notre cœur. C'est toujours la disposition de notre cœur. Quand nous faisons quelque chose, pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est la disposition de notre cœur? Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par amour pour Dieu? Est-ce que c'est par amour pour les autres? La puissance propre au jeûne collectif. Je voudrais aussi ajouter ceci. Je suis personnellement convaincue que si le jeûne est pratiqué correctement, il est également très bénéfique pour notre santé physique. Et en fait, je pense que c'est un moyen trop négligé de guérir des maux physiques. Et maintenant, on le sait, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. C'était Denis qui nous avait passé cette émission en Russie, où il y a un hôpital où il traite des cas lourds, comme le cancer et autres, par le jeûne. Et il voit des guérisons sans aucun médicament, juste par le jeûne. Je voudrais traiter de quelques faits bibliques sur le jeûne. Je veux d'abord souligner que le Christ attend de ses disciples qu'ils pratiquent le jeûne. Dans le sermon sur la montagne, qui est en réalité les exigences de base pour être le disciple de Christ, Jésus fait les déclarations suivantes dans Matthieu. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qui est là dans le lieu secret. » Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Je tiens à souligner que Jésus ne dit pas « si vous jeûnez », mais « quand vous jeûnez ». Il n'a pas dit « si vous jeûnez », il a dit « quand vous jeûnez ». Et cela montre qu'il s'attend à ce que tous ses disciples jeûnent. La question n'est pas s'ils le feront ou non, mais comment ils le feront. Et Jésus continue en posant certains principes de base sur le jeûne. Il est significatif que Jésus parle de jeûner à la fois au pluriel et au singulier, puisqu'il dit à un moment « lorsque vous jeûnez » et ensuite il dit « quand tu jeûnes ». Donc il s'agit bien du jeûne individuel et que l'on fait souvent, mais aussi de jeûne collectif. Et il est important de pratiquer le jeûne individuel en privé, mais lorsque Jésus dit « lorsque vous jeûnez », je crois qu'il parle de jeûne collectif. Et certains disent que le jeûne doit toujours se faire dans le secret, mais je crois que c'est la stratégie du diable. Et Jésus utilise exactement le même langage pour la prière, ce qui supposerait que la prière et le jeûne doivent toujours se faire dans le secret dans ce cas-là. Et il n'y aurait donc ni de réunion de prière publique, ni de jeûne collectif. Mais si l'on pense qu'il faut de la prière publique et collective, c'est valable aussi pour le jeûne. Et on voit bien que c'est une stratégie du diable. Il y a donc la prière et le jeûne individuel, fait en secret, mais il y a aussi la prière et le jeûne collectif qui se font ensemble, en public et annoncés publiquement, car il faut fixer une date et un lieu. Si on veut être tous ensemble, bien évidemment, il faut être en accord et il faut prévenir. Notons qu'en ce qui concerne le jeûne individuel et privé, Jésus dit en substance, si vous le faites et de la bonne façon, Dieu vous récompensera. Donc, si vous ne jeûnez pas, gardez à l'esprit que vous renoncez à une récompense. Et moi, j'ai réalisé que quand j'avais lu ce verset, je pensais à les récompenses, c'est pour plus tard. Mais après, au vu du témoignage de ce frère, j'ai réfléchi, je dis, mais non, c'est vrai. À chaque fois que j'ai jeûné, j'ai expérimenté la joie. J'ai expérimenté une facilité de comprendre la parole. J'ai vu des montagnes s'aplanir devant moi. J'ai vu des choses incroyables se passer. J'ai l'habitude de dire, quand on est arrivé au château, on jeûnait régulièrement à plusieurs, au moins tout le mois de septembre, au minimum. Et je me dis, on n'aurait jamais survécu et on ne serait jamais passé au travers si on n'avait pas jeûné à plusieurs comme ça, régulièrement, et surtout en début d'année. Et là, j'ai dit, waouh ! Et je vois, quand je jeûne, à chaque fois, on dit, mais les forces sont là, ça n'a rien à voir avec... En fait, et c'est ça, notre récompense. Je dis, waouh ! Mais Seigneur, tu es trop fort ! Quand y a des... Et en fait, à chaque fois qu'on jeûne, on reconnaît qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Et du coup, le Seigneur dit, ouais, youpi, je peux enfin l'aider, je peux venir, je suis là. En fait, c'est ça. Et la récompense, c'est que Dieu nous amène dans ces lieux où on ne peut pas aller par nous-mêmes. Dieu nous donne ce que nous, on ne peut pas produire par nous-mêmes, simplement parce qu'on a humilié nos âmes et parce qu'on a choisi de ne pas nourrir notre corps charnel et parce qu'on croit que toute parole vient du trône de Dieu. Et ça, c'est, j'ai dit, waouh, mais c'est vrai. Et donc, ensuite, dans Marc, nous lisons d'autres instructions sur le jeûne. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Et il vient dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Il est important de comprendre qu'à l'époque de Jésus, jeûner fait partie de la religion. Et les pharisiens et les disciples de Jean jeûnent. En fait, le jeûne est une partie normale de toutes les religions sérieuses, dans toutes les cultures et dans toutes les nations. Les bouddhistes jeûnent, les musulmans jeûnent, tous les religieux qui prennent leur religion au sérieux pratiquent le jeûne. Alors, ce n'est pas une raison pour ça que nous, du coup, on ne devrait plus jeûner par réaction, parce que dit nous, on n'est pas bouddhistes, nous, on n'est pas musulmans, etc., n'est-ce pas? Voilà. Quand j'ai écrit « Façonner l'histoire par la prière et le jeûne », un de mes amis a fait des recherches dans la bibliothèque du Congrès aux États-Unis pour voir s'il y avait des livres chrétiens sur le jeûne. Et vous savez ce qu'il a découvert? Beaucoup de livres sur le jeûne par les musulmans, par les hindous, par les bouddhistes, et ainsi de suite. Mais pas un seul livre écrit par un auteur chrétien. Donc ça, c'était les années 50, hein, dans toute la bibliothèque du Congrès, et sur le sujet du jeûne. Je pense que c'est un reproche qui nous est fait en tant que chrétiens. Le jeûne est une partie intégrante de toute religion sérieuse. Et donc, à l'époque, quand les gens ont dit à Jésus, voyaient que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas, ils demandent, mais pourquoi? Et comment ça? Et en fait, Jésus leur répond, au verset 19 de Marc, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Et aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Bien sûr, c'est une parabole qu'il faut interpréter, mais voici mon interprétation. Je crois que l'époux est Jésus-Christ. Je pense qu'il ne fait aucun doute à ce sujet. Et les amis de l'époux sont les disciples. Jésus dit qu'à l'heure actuelle, quand il leur parle, l'époux est avec eux et ils ne peuvent pas jeûner. Mais il ajoute avec insistance que les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ces jours-là. Si nous demandons, l'époux a-t-il été enlevé loin de nous? Ma réponse est oui. Nous attendons tous le retour de l'époux. Donc, si nous attendons le retour de l'époux, c'est la preuve qu'il a été enlevé de nous. Ainsi, dans les jours entre sa présence sur la terre et son retour à nouveau du ciel, Jésus dit à ses disciples que dans ces jours, ils jeûneront. Par conséquent, dans les jours où nous vivons, le jeûne est une marque du disciple chrétien. Et si tu n'as pas cette marque, tu rates une des marques données par Dieu à ses disciples. Et Jésus s'attend à ce que tous les chrétiens jeûnent. La puissance propre au jeûne corporatif ou collectif et des exemples dans le Nouveau Testament. Vous êtes prêts ? Je veux affirmer que l'Église du Nouveau Testament pratiquait le jeûne en groupe, pas seulement le jeûne individuel, mais le jeûne collectif. Dans Actes, au chapitre 13, à partir du verset 1, nous lisons ceci. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Cinq hommes sont nommés au verset 2. Et pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, qu'ils le servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ces hommes, les dirigeants de l'église, servaient le Seigneur collectivement dans le jeûne. Et servir le Seigneur est un concept important dont tout chrétien moyen n'a que peu ou pas de compréhension. Les chrétiens parlent de servir les autres, mais c'est secondaire. Servir le Seigneur est ce qui doit venir en premier. Et c'est ce dont Elvire nous a parlé, Pierre Daniel nous a parlé. Servir le Seigneur, comment jeûner, comprendre jeûner. Comprend jeûner. Servir le Seigneur comprend le fait de jeûner. S'attendre au Seigneur, le louer, le prier, rechercher son esprit et son conseil. C'est cela, servir le Seigneur. Et quand on sert le Seigneur, il révèle son dessein. Et je peux vous dire que plus on est jeune, plus on a besoin de jeûner parce qu'on a envie de savoir ce que Dieu a pour nous. Dans la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans la recherche assoiffée de Dieu, sachez que Dieu répond et il nous met là où il nous attend. Pourquoi vous croyez qu'on est rentré dans l'éducation chrétienne ? Parce qu'on était assoiffé de Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la louange, dans la présence de Dieu. Mais ce qui est devant nous est beaucoup plus énorme que ce qui est derrière nous. Et si on veut y rentrer, on a besoin de nouveau de retrouver ce temps collectif de jeûne, pas seulement individuel, mais aussi collectif. On ne se fait pas soi-même une idée de ce que l'on doit faire. Mais on reste dans le service du Seigneur jusqu'à ce qu'il nous montre ce qu'il veut accomplir. Et dans le Nouveau Testament, servir le Seigneur se pratiquait dans l'attente collective du Seigneur, dans le jeûne et dans la prière. Et c'est alors qu'il recevait la révélation de l'objectif de Dieu, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Remarquez que le jeûne est à nouveau mentionné au verset 3. « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. La deuxième fois, le but de la prière et du jeûne était de mandater ces deux hommes qui étaient envoyés, de demander pour eux la grâce, de demander pour eux l'autorité et la puissance dont ils auraient besoin, et de prier que les portes s'ouvrent dans le domaine du ministère auquel Dieu les envoyait. C'est-à-dire que là, on s'arrête et on dit, « Seigneur, on ne peut pas y aller nous-mêmes. On ne peut pas y aller juste avec nos forces. On ne peut pas y aller juste avec nos moyens. » Donc quand on s'arrête et qu'on jeûne et qu'on prie ensemble pour envoyer quelqu'un, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Et Dieu les envoyait. Et à la fin du chapitre 14, quand ils sont de retour, il est significatif qu'ils rapportent que Dieu a ouvert la porte de la foi aux gentils et que la tâche pour laquelle ils étaient envoyés a été remplie. C'était le résultat de la prière et du jeûne collectif. La prière et le jeûne ouvrent les portes qui ne s'ouvrent pas autrement. En outre, le travail qui prend naissance dans la prière et le jeûne, dans l'attente de Dieu, et ensuite dans le mandat, accomplit la tâche à laquelle il est envoyé. Donc bien sûr, il ne s'agit pas là de faire des efforts, mais de se mettre en position de faiblesse et d'humilité. Ce n'est pas accomplir quelque chose pour Dieu, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Christ a tout accompli pour nous. Mais là, on se met dans cette position de faiblesse, de vulnérabilité et d'attente, d'honneur, où on dit « Seigneur, on est ensemble à ton écoute, on est désespérément assoiffé de toi ». Quand j'étais missionnaire en Afrique de l'Est, de 1957 à 61, nous avions l'habitude, mon épouse et moi, de jeûner régulièrement un jour par semaine. Et nous avons suivi cette pratique pendant de nombreuses années. Et quand je me suis finalement retrouvée directeur d'université, j'avais un très grand nombre de responsabilités, plus ou moins laïques, et je me suis dit « Oh, je suis trop occupée pour jeûner ». Et pendant un certain temps, je n'ai pas jeûné, et j'ai découvert qu'en quelque sorte, ma vie spirituelle était à la baisse. Et je ne jouissais plus de cette bénédiction de Dieu. Je n'avais plus cette onction, ni la foi et la confiance que j'avais auparavant. Finalement, Dieu m'a montré que j'avais abandonné de jeûner, tout occupée que j'étais, je me suis remis à jeûner et la bénédiction et l'onction sont revenus. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on a cette dimension de la justice qui revient très fort, mais cela n'exclut pas le jeûne. Et ne faisons pas ce raccourci de se dire « oui, mais si on a compris ce que Jésus a fait pour nous, ben c'est bon, c'est le pullman ». Non, la justice, ça nous rappelle qui nous sommes, mais ça n'enlève pas ce fait, ce devoir de simplement chercher Dieu dans les moyens qu'il nous a donnés. Puis un jour, je me suis dit, je suis ici en Afrique de l'Est pour les 4 ou 5 prochaines années. À la fin de cette période, quand je partirai, est-ce que je pourrais dire que j'ai accompli la tâche pour laquelle Dieu m'a envoyé ici ? Et j'avais lu dans le Nouveau Testament que ceux qui étaient mandatés accomplissaient ce pourquoi ils avaient été envoyés. Et Dieu me disait clairement que si je voulais les résultats du Nouveau Testament, il fallait suivre les méthodes du Nouveau Testament. Et ceux qui étaient envoyés accomplissaient leur tâche parce qu'elle était née dans la prière et le jeûne. Et j'y crois. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres moyens d'obtenir des résultats comme ceux du Nouveau Testament. Et comme je vous disais au début de l'école au château, on était obligé d'être dans le jeûne, sinon on ne serait plus là aujourd'hui. Ben, je me dis finalement, si on veut pouvoir entrer dans tout ce que Dieu nous dit actuellement, on a besoin d'entrer de nouveau dans ce jeûne collectif. Et au cours de leur voyage, dans les différentes villes, ils amenaient un certain nombre de personnes au Seigneur. Et celles-ci devenaient des disciples. Et quand ils revenaient, ils leur rendaient à nouveau visite et les établissaient en congrégation. Et le moyen par lequel ils établissaient les congrégations était la nomination d'anciens. C'est très important. Et quand les anciens étaient nommés, il se faisait une transition d'un simple groupe de disciples à une église. Et en acte 14, verset 23, nous lisons comment il les nommait. Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque ville, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandaient au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, à 3 reprises dans le Nouveau Testament, nous avons la prière et le jeûne collectif et public de la part des responsables de l'église primitive. 1. Tout d'abord pour servir Dieu et chercher la révélation de sa volonté. Deuxièmement, pour mandater les apôtres envoyés, pour accomplir une tâche donnée par Dieu. Et troisièmement, pour nommer des anciens et des responsables ou des bergers dans une congrégation locale. Dans l'Église du Nouveau Testament, toutes les principales responsabilités du leadership chrétien étaient accompagnées dans la prière et le jeûne. Que ce soit la recherche de la pensée de Dieu, l'envoi des apôtres, la nomination des anciens. L'étude de l'ordre du gouvernement de l'Église montre que les apôtres et les anciens sont les deux grandes fondations sur lesquelles repose l'ordre et le gouvernement. Et remarquez que dans l'Église primitive, les aînés et les apôtres étaient le produit de la prière et du jeûne en unité. En d'autres termes, toute la base de la vie et de l'ordre de l'Église était la prière et le jeûne en unité. La prière et le jeûne en unité. Le pouvoir propre au jeûne collectif. Quand on remonte à l'Ancien Testament, on voit que sous l'Ancienne Alliance, Dieu demande qu'Israël jeûne collectivement le jour du grand pardon. Imaginez que toute une nation renonce complètement à toute nourriture et toute activité séculière pendant un jour, chaque année, et s'humilie devant Dieu, le Tout-Puissant. Et bien, eux le faisaient par le jeûne. Le chapitre 16 du Lévitique, versets 29 à 31, explique l'observation du jour du grand pardon que les Juifs appellent Yom Kippour. La quatrième guerre d'Israël a été déclenchée en ce jour, particulièrement sacré. Et les commentateurs de l'actualité soulignaient que la majorité des soldats juifs étaient partis au combat en jeûnant. Pourquoi ? Parce que c'était le jour du grand pardon. Et vous savez qu'ils ont vu des miracles incroyables. Quand j'étais en Israël, j'ai parlé avec quelqu'un qui conduisait un char. Ils se sont retrouvés, ils étaient environnés par les ennemis. Vous savez, je ne sais plus combien plus nombreux, mais ils étaient beaucoup, beaucoup plus nombreux. Et cet homme m'a dit, on est descendu de nos chars dans le désert. On s'est agenouillés dans le sable et nous avons crié à notre Dieu El Shaddai. Et les autres chars ont fait volte-face et sont partis. Ça rappelle des histoires, n'est-ce pas ? Le serviteur d'Élisée qui dit « Ah ! Ah, tous ces chars !» Et Élisée qui dit « Mais regarde, les chars de l'Éternel se comptent par milliers, et ceux qui sont pour nous sont en plus grand nombre. » Et d'un coup, ses yeux se sont ouverts et il a vu les chars de l'Éternel. Je pense que ce jour-là, ceux qui battaient contre Israël ont dû voir les chars de l'Éternel qui se comptent par milliers. C'est ici pour vous une prescription perpétuelle au septième mois, le 10 du mois. Vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'autochtone, ni l'immigrant qui réside au milieu de vous, car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, et vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez donc vos âmes, et c'est une prescription perpétuelle. Et en fait, il veut en venir un peu plus loin, vous allez voir. Avant d'en venir à la signification de l'expression « humilier vos âmes », remarquons qu'il devait en faire un jour solennel. Donc ça, c'était pour les Juifs. Mis à part une ordonnance divine pour toujours. Comment humiliaient-ils leurs âmes ? Le Nouveau Testament nous dit qu'ils l'ont fait par le jeûne. Ils humilient leurs âmes par le jeûne. Nous avons ici une corrélation fort intéressante entre l'Ancien et le Nouveau Testament dans Actes 27, au verset 9. Nous lisons le récit du début du voyage de Paul par bateau pour Rome. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car le jeûne était déjà passé. Que veut dire le jeûne dans ce verset ? C'est le mot employé dans le Nouveau Testament pour le jour du grand pardon. En quelle saison de l'année ce jour arrive-t-il ? Toujours à la fin de septembre, début octobre, qui signifie que les jeûnes étaient passés, ça veut dire que c'était presque l'hiver. Et dans les temps bibliques, ils ne naviguaient pas en hiver, mais seulement en été. Et c'est ainsi que nous savons précisément que la date mentionnée est le jour du grand pardon, le jeûne. En d'autres termes, nous avons la preuve du Nouveau Testament que les croyants juifs et les apôtres eux-mêmes reconnaissaient que affliger leurs âmes était jeûner. Et en ce jour-là, et seulement ce jour-là, le grand prêtre pénétrait au-delà du second voile dans le Saint des Saints. Donc il montre que c'était encore valable, il le pratiquait encore, humilier nos âmes, jeûner était une pratique qui se faisait aussi en ce temps-là. Et quand la guerre a éclaté, le Yom Kippour, je pense que Dieu a dit « c'est l'heure à mon horloge ». Et je crois qu'Israël est toujours la grande aiguille de l'horloge prophétique de Dieu. Et je crois que Dieu a dit « le temps est venu pour l'Église d'humilier leurs âmes ». Par le jeûne collectif. Et quand l'Église le fera, le chemin sera ouvert dans le lieu très saint. Et depuis des années, je sais que le jeûne est efficace, mais Dieu m'a montré qu'il est plus que cela. C'est un chemin. Affliger vos âmes par le jeûne amène sous le contrôle du Saint-Esprit les éléments de votre nature qui sont en opposition avec Dieu. Humilier nos âmes, c'est vraiment soumettre ce qui est encore en nous et qui veut s'opposer simplement à Dieu. Et en terminant, il veut citer Chronique, 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et écoutez bien, remarquons que ce n'est pas le péché des incroyants qui empêche la guérison de notre pays, mais c'est le péché des croyants. C'est ce qui fait obstacle à ce que Dieu fasse, ce qui doit être fait pour notre pays et pour notre nation. C'est l'Église, souvent, qui reste l'obstacle. Dieu agit selon l'ordre divin. L'Église est le corps du Christ. Christ est son Fils qui l'honore. Dieu ne court-circuitera pas l'Église parce que ce serait déshonorer son Fils. Donc, si Dieu veut faire quoi que ce soit par grâce sur la terre, il va le faire au travers de l'Église. Et si l'Église se soumet à Dieu, Dieu peut agir dans le monde par l'Église. Mais si l'Église résiste à Dieu, Dieu ne peut pas atteindre le monde. Voilà notre responsabilité. C'est vraiment de nous mettre dans cette position d'humilité ensemble, nous attendant à Dieu ensemble, reconnaissant que c'est lui en nous et non pas nous par nos propres forces ou nos bonnes idées, mais que c'est Dieu en nous qui va accomplir l'œuvre à laquelle il nous a appelés et à laquelle il veut nous envoyer. Dans le grand réveil de 1904 au pays de Galles, Evan Roberts, le leader que Dieu avait donné, avait pour devise de faire plier l'Église dans le monde, de faire plier l'Église et le monde pliera. C'est-à-dire d'amener l'Église à genoux dans la prière et le monde pliera à la volonté du Seigneur. Quand on peut faire plier l'Église, il n'y a pas de problème pour faire plier le monde. Pour Dieu, le problème, c'est toujours dans son peuple qui a le cou raide et qui est propre, juste et entêté. Dieu dit, si mon peuple, qu'exige-t-il en premier ? Pas de prier, mais de s'humilier. Il résiste aux orgueilleux. La prière faite avec orgueil n'aboutit pas, mais il fait grâce au humble. Fait intéressant, le mot humble dans l'expression s'humilier est le même mot qui est utilisé dans Lévitique 16, 29 pour affliger nos âmes. Dans l'expression affliger vos âmes, si vous regardez dans une concordance, vous verrez qu'on trouve les deux traductions, s'affliger ou s'humilier, les deux sont bonnes. Donc, quand Dieu demande à son peuple de s'humilier, il lui dit de jeûner collectivement. C'est son exigence de base. Il dit, quand vous faites cela et qu'ensuite vous priez et cherchez ma face, que vous vous détournez de vos mauvaises voies, je guérirai votre pays. C'est ce que Dieu demande de son peuple en notre temps. Notre rôle dans la restauration est de nous humilier, prier, chercher la face de Dieu et de nous détourner de nos mauvaises voies. Et quand nous le ferons, quand nous le faisons, Dieu guérit nos pays. Et simplement, je voudrais rappeler ce que quelqu'un disait ces derniers temps, alors que nous nous retrouvions dans nos différents comités. Nous sommes inondés d'informations. Nous sommes à l'époque de l'information, tous azimuts. On sait ce qui se passe à Tombouctou et à l'autre bout de la terre. Et on ne sait pas ce qui se passe dans notre ville. Mais sachons ce qui se passe devant le trône de Dieu. Rentrons dans ce temps collectif où simplement on s'arrête, où on ferme nos oreilles à ce brouhaha ambiant qui veut saturer nos pensées et nos âmes d'inquiétude et de mensonges. Et entendons la voix douce du Père. Entrons, prenons notre identité, cette justice que Jésus nous a acquis par son obéissance parfaite. Retrouvons-nous ensemble, collectivement, dans le jeûne et la prière pour entendre et dire « Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes faibles, que nous sommes pauvres et nus, que nous avons besoin de toi, que tu nous revêtes de ton autorité, que tu nous revêtes de ta justice, que tu nous revêtes de ton onction. Nous nous attendons ensemble. » Vous savez, Jésus avait dit aux disciples, ne partez pas, restez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous receviez le manteau, jusqu'à ce que vous receviez l'onction. Et nous avons besoin de nous retrouver tous ensemble pour dire, Seigneur, envoie-nous, qui ait cette soif en nous qui dit, Seigneur, on veut y aller, mais on peut pas y aller sans toi, revêt-nous. On le fait individuellement, mais on veut vraiment vous inviter à venir collectivement. Et on va commencer cette semaine prochaine, dimanche prochain, après le culte. On faisait ça dans l'église où nous étions avant, à Pierre Vivante. C'est très simple. Une fois par mois, le dimanche, eh bien, on reste pour le temps de repas. Pour les familles, ben, un des deux donne à manger aux enfants. Ils peuvent rester à côté. Et ceux qui peuvent restent ensemble. Et simplement, on s'attend à Dieu ensemble dans le jeûne. Et de cette façon, simplement, on dit, Seigneur, nous reconnaissons à toi toute la gloire et l'honneur. Nous décidons d'affliger nos âmes et de nous humilier parce que toi seul es digne et toi seul peux marcher et nous revêtir pour que nous allions avec la puissance et que tu donnes gloire à ton nom. Et souvenons-nous que la gloire, c'est pas d'abord la puissance, c'est la présence de Dieu dans laquelle il y a cette grande miséricorde, où il y a cette puissance d'amour. Je sais pas, tous, je pense, j'espère, vous avez vécu ces temps où il y a une présence de Dieu palpable et on n'a plus envie de partir. Pourquoi ? Parce qu'on a tout. Dans cette présence de Dieu, on a tout. Mais vous savez, cette présence de Dieu, on a besoin de la partager au monde, que partout où nous allons, nous soyons revêtus de cette présence. Et ça va par le fait de prophétiser, ça va par le fait de savoir qui nous sommes, ça va par le fait de nous attendre collectivement à Dieu, de renoncer. C'est une façon de dire, nous renonçons à nos propres forces et nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi en nous. Papa, merci, merci pour ta grande bonté. Merci pour ta grande miséricorde. Merci pour ton amour que tu nous as encore rappelé ce matin, qui nous dépasse et dont nous avons besoin de connaître les profondeurs, la largeur et la hauteur, qu'il nous faudra l'éternité pour la découvrir. Seigneur, aide-nous en tant que corps. Nous te demandons pardon d'avoir attendu aussi longtemps pour nous retrouver collectivement. Seigneur, en tant que responsable de cette église, je te demande pardon pour avoir laissé de côté cette dimension. Et nous voulons vraiment ensemble nous retrouver à nouveau collectivement, Seigneur. Merci pour ce lieu que tu nous as donné. Merci pour les promesses que tu nous as données. Et Seigneur, merci parce que tu nous as gardés jusque-là, parce que tu veux nous revêtir. Tu nous as retenus jusque-là, parce que tu veux nous revêtir. Tu nous as retenus parce que ce qui est devant nous est tellement grand que nous avons besoin besoin de tout le revêtement de ta part pour aller, Seigneur, parce qu'il y a un monde assoiffé et tu veux nous revêtir. Et Seigneur, vraiment, nous mettons à part déjà ce temps dimanche prochain et nous voulons nous retrouver ensemble, Seigneur, et soupirer ensemble après toi, nous humilier ensemble devant toi et te dire, viens nous revêtir, Seigneur, viens aplanir les montagnes que nous ne pouvons déplacer, parce que nous savons que les chars de l'Éternel se comptent parmi les. Seigneur, tu nous l'as montré par l'exemple d'Israël et encore par cette guerre des six jours, Seigneur, où toi tu as manifesté ta gloire. Et Seigneur, tu veux vraiment que nous entrions plus profondément dans cette sacrificature, mais aussi sur le terrain. Mais nous ne pouvons y entrer par nous-mêmes, Seigneur. Nous ne voulons pas y entrer par nous-mêmes, mais nous voulons que toi tu nous revêtes et que nous puissions aller pour accomplir les mandats que tu nous donnes, chacun pour notre part et collectivement. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Cher Saint-Esprit, je te prie de continuer à faire pénétrer la parole dans nos cœurs. Merci parce que tu as été envoyé auprès de nous pour nous donner tout le conseil du cœur du Père. Merci parce que tu nous as ouvert le chemin, Jésus, de la Trinité, et nous pouvons avoir accès à tout le conseil céleste. Donne-nous d'être diligents, que nous ne nous laissions pas disperser, afin que nous puissions accomplir l'œuvre à laquelle tu nous appelles, les générations ensemble, que rien ne se perde, et que le plus grand nombre vienne à la connaissance de ton amour, de ta miséricorde, de ton salut, de ton pardon parfait. Seigneur, nous crions et nous soupirons après toi. Nous voulons plus de toi. Nous bénissons nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, tu as dit que les justes, les enfants des justes, les fils et les filles des justes, eh bien, possèdent le pays. Nous savons que c'est la promesse pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas tarder à nous assembler encore ensemble, Seigneur. Viens, Seigneur, nous fortifier. Conduis-nous ensemble plus loin. Merci parce que tu nous as assis avec toi dans les lieux célestes. Et ensemble, nous voulons faire descendre le ciel, Seigneur, sur la terre. Que ton royaume vienne, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous voulons libérer toute offense. Nous voulons libérer toute offense comme toi, tu nous as pardonné. Tu ne nous as pas jugés, tu n'es pas venu pour juger. Mais tu es venu pour libérer, pour sauver. Et c'est encore le temps. Seigneur, et nous voulons encore bénir Israël aujourd'hui. Seigneur, nous portons Israël. Nous prions, Seigneur, pour le salut. Nous rappelons tes promesses pour cette nation. Nous prions pour le peuple juif encore qui est dans notre nation et qui subit la persécution. Nous prions, Seigneur, ta sécurité. Nous prions la révélation du Fils de Dieu. Nous prions ton shalom. Seigneur, nous prions que la crainte ne saisisse pas leur cœur, mais qu'ils soient saisis de cette conviction de retourner sur la terre que tu leur as, toi-même, tu leur as donné. Seigneur, vraiment, nous crions grâce dans ces temps dans lesquels nous nous trouvons et nous voulons nous tenir ensemble afin que tu nous revêtes, Seigneur, les trois, les quatre générations ensemble, afin que ton royaume vienne et qu'il s'installe au milieu de nous pour toujours, en Jésus. Et Seigneur, nous bénissons encore les écoles chrétiennes, nous bénissons ces mouvements d'école, nous bénissons toute l'équipe de l'établissement scolaire privé Daniel, l'école Emmanuel, toutes nos petites écoles d'Alsace. Nous les bénissons, nous disons ta bénédiction. Nous bénissons l'ISP, nous bénissons l'Institut supérieur protestant. Nous bénissons, Seigneur, ces hommes et ces femmes de courage qui se sont levés pour cette génération. Nous bénissons les projets qui sont dans notre nation. Et Seigneur, donne-nous de nous tenir ensemble alors que nous humilions nos âmes pour voir ta gloire descendre, demeurer au milieu de nous, afin que tu reviennes, Jésus, que nos fils et nos filles te connaissent, que nos petits-enfants te connaissent et qu'ils te servent. Seigneur, nous avons soif de voir des crèches selon ton cœur. Donne-nous de nous joindre ensemble pour crier « Interviens, Papa, interviens, revêt-nous, arme notre bras, Seigneur, que nos cœurs soient bouillants et passionnés par toi, dans le nom de Jésus. Amen.